Store. Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Transistor, l'émission, et vous avez bien raison. En plus d'être un magazine papier, Transistor, c'est aussi une émission mensuelle dans laquelle nous recevons un musicien, un programmateur, un organisateur de concerts, bref, quelqu'un qui fait l'actualité musicale de notre beau et magnifique rayonnant département. Alors, l'invité du jour, vous le connaissez peut-être sans le savoir d'ailleurs. L'ex-guitariste d'Étoile Comics de Maël, Romuald Gablin, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Bonsoir Romuald.
Bonsoir.
Voilà, donc Romuald, disais-je, est donc notre invité. Et vous le connaissez peut-être, puisque c'est lui qui, sans le savoir, puisque c'est lui qui a enregistré, réalisé même, pourrait-on dire, les derniers albums de, par exemple, La Casa, Florian Mona, Monsieur Roux, John Doe's ou Babel Quartet, d'ailleurs, qu'on a reçu précédemment dans cette émission, les toutes récentes émissions. Et c'est pas lui, cependant, qui a enregistré la première démo de Weston, une démo qui fait l'objet de la première rubrique de cette émission, la traditionnelle, l'irremplaçable, j'ai nommé la démo à Rico. Bonsoir Rico.
Bonsoir, bonsoir. Enfin, l'irremplaçable, je fais une petite trêve automnale.
Oui, on est bien content de te retrouver
voilà,
d'ailleurs.
Ce soir-là, donc voilà. Un rhume prolongé, on va dire. Voilà, la démo Weston ce soir, ce n'est pas une marque de cigarettes, mais bien un groupe de rock. Donc, qui râle encore du côté de la Mayenne, plus précisément de la ville de Mayenne, puisqu'en fait, Weston, il s'agit de 5 garçons dans le vent. Alors, j'ai pas trop vu leur coupe de cheveux, mais bon, c'est la formule consacrée, on va dire, voilà. Qui ont décidé de justement s'associer dans un projet électrique sous haute tension, voilà. Donc, ils sont d'abord en fait essayés à la reprise, donc en reprenant un petit peu les grands classiques rock qui allaient de Noir Désir en passant par Nirvana ou s'essayer sur Muse ou Foo Fighters.
Les classiques. Quoi.
Voilà, les classiques dont on va retrouver forcément des influences l'album, enfin dans l'écoute de la démo. Pour finalement en fait terminer par composer un petit titre qu'ils ont sorti au mois d'août dernier. Donc les garçons sont relativement carburent à l'hyperactivité musicale puisque ils ont à peine un an et ont déjà sorti un EP 6 titres. Et à l'écoute, ben j'étais agréablement surpris. Bon, pas non plus.
C'est pas la claque du siècle.
Non, méchamment emballé, mais agréablement surpris parce que pour un groupe aussi jeune que ça, je trouve que ça sonne plutôt bien. Donc ce qui peut paraître assez étonnant. Après, la musique de Weston, va réunir sans grande surprise hein, un son rock plutôt puissant. Donc, on a tout, hein, on a tous les ingrédients, les guitares saturées, l'assise rythmique plutôt bien carrée, on va dire couillu un petit peu. Enfin voilà, les enfants sont couchés, on peut y aller. le riff supersonique et les mélodies enlevées. Bah voilà. Enfin, je pense que l'apôtre du boucan binaire en aura un petit peu pour ses oreilles. Dans ce déluge électrique relativement bien maîtrisé, un peu l'image du chanteur qui sait justement résister, lui, le pauvre, à l'assaut de cette décharge électrique là, parce qu'en fait il arrive à poser une voix plutôt étonnante et juste et énergique sur des textes et en plus en français. Et oui, pour un groupe de rock qui fait du français, c'est quand même assez intéressant et de le noter. Et ce qui relève pour moi, c'est un petit défi qu'ils ont réussi à accomplir, puisque c'est un vrai musicalement derrière, ça peut s'apparenter à un vrai rouleau compresseur, quoi. Ça démonte, quoi, comme on dit. Dans les milieux autorisés. Enfin voilà, donc c'est plutôt bien foutu pour une première démo.
Que c'est des gens qui ont un peu de bouteille, puisqu'il y a quand même dans ce groupe-là, notamment l'ancien tromboniste de Kiemsa, qui joue de la batterie maintenant.
D'accord, alors c'est pour ça que ça me semblait, pour un groupe aussi jeune, aussi mature musicalement, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et après, donc voilà, moi j'ai pas creusé essentiellement, je me suis juste inspiré de la bio du groupe pour faire cette cette chronique-là. D'accord. Je l'annonce, hein, voilà. Je sais pas non plus.
Soyons honnêtes.
Enfin, j'ai pas fait de documentaire.
Il faut tout mettre sur la table.
Mais oui. Enfin, voilà, je trouvais que c'était relativement bien foutu, donc pour cette première démo. Côté concert, alors pour l'instant, il y a peu de concerts hein, à leur actif. Il y a 3-4 concerts dans leur book. Alors, si vous êtes du côté justement de Mayenne ce week-end, n'hésitez pas, ils joueront aux Justices avec les Sweet Upper Die, voilà, pardon, Andreas et Nicolas, et le fameux justement qui aime ça pour son ultime concert et son au revoir à la scène après 10 ans de dur labeur.
C'est un rendez-vous à noter, donc le samedi et vendredi, je crois.
C'est vendredi et samedi, donc avec un gros plateau. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous êtes du côté de Mayenne. Donc avant justement d'aller les applaudir, bah, ce qui serait trêve de bavardage, hein, ça serait plus facile de les écouter. On va écouter le morceau Paradis Mesquin, que c'est leur choix, qu'ils considèrent comme la chanson la plus aérée, c'est vous qui verrez après, de leur répertoire en matière de composition. En fait, on raconte que c'est un mélange guitare saturée, guitare un peu plus claire, un peu plus mélodique. L'histoire, c'est du désenchantement apparemment, c'est voilà, où de nombreuses personnes qui décident de plaquer tout pour fuir en fait le système, finalement ils reviennent, voilà. Désolé pour cette note super pessimiste dans cet esprit de Noël, car nous sommes le 1er décembre et moi je suis totalement dans l'esprit
de Noël.
T'es déjà dans Noël.
D'ailleurs, voilà. Rico, vous ne voyez pas puisqu'on a la radio, mais a revêtu hein, son habit de Père Noël.
Il est en Père Noël.
Voilà, et n'hésitez pas à venir à la fin de l'émission parce qu'on distribuera des calendriers de l'Avent à tout va pour ceux qui veulent. Allez, écoutons Paradis Mesquin des Weston.
Thank you.
Et voilà, c'était Weston. J'ai toujours du mal. Weston, voilà.
Weston.
Weston, Paradis Mesquin. Donc, si vous voulez les voir sur scène, bah, n'hésitez pas. Demain soir et samedi soir, ils seront au Justice à Mayenne. Donc, sur une soirée d'adieu avec qui aime ça. Donc, comme le disait tout à l'heure Nicolas en introduction, notre invité, bien encore très jeune.
Merci.
Non, c'est pas poli. Voilà. A déjà enregistré apparemment une belle brochette de disques. Comme il a, avant de revenir sur tout ça, bah, en fait, on va parler un petit peu de ton actu. Et mon cher Romuald, qui est assez bien chargé, puisque il y a eu des sorties récentes, notamment l'album de Babel Quartet, et puis l'EP 5 titres ou 6 titres, des John Doe's. Donc ça s'est passé, qui étaient en plus les invités des émissions précédentes, comme quoi le Transistor a le nez fin, cohérent. Hein, toujours sur les bons coups. Cohérent sur sa prog radio. Donc voilà, ça s'est passé plutôt pas mal. T'en es content enfin de tout ça?
Oui, ça a été assez rapide. Et non, très bien. Enfin, moi, j'avais écouté quelques titres démo des John Doe et ça rentrait vraiment dans mon univers musical. Et donc, Valentin et Thomas sont charmants et chantent très bien, des bonnes idées. Et c'est très bien passé, quoi. On est plutôt content du résultat et eux apparemment aussi, quoi.
C'est vrai que c'est un enregistrement qui a été assez rapide, comme tu disais, puisque je crois que vous avez commencé à rentrer en studio en août.
Début août. Voilà. Pendant 15 jours, on a fait les prises.
C'était torché en...
Et après, moi, j'ai bossé un peu dessus. Ils sont revenus et mixage une semaine pour les 5 titres. Et je crois que mi-septembre, c'était au mastering. Donc, ça va plutôt assez vite, quoi.
Ce qui n'a pas été forcément le cas avec Babel, où c'était un petit peu plus long.
Ouais. Babel, c'était l'accouchement, beaucoup plus long, puisque au début, il est venu vraiment avec voix-guitare, sans arrangement forcément précis de ce qu'il voulait faire. Donc, on a bossé tous les deux. Et donc, on a essayé, on a mis quelques beats électro. On a fait quand même pas mal d'arrangements. Et après, donc, suite à ça... Il y a des musiciens qui ont intégré le projet en cours.
Voilà, ouais.
Donc, il a fallu
réintégrer,
remodifier un peu. On était quand même parti sur un truc plus acoustique. Donc, après, il a fallu intégrer les platines, le violoncelle, le piano. Donc, ça a été plus long.
Comment ça se passe? C'est les musiciens qui te contactent? C'est toi qui vas vers eux? Comment ils ont eu vent de tes pros de
J'ai jamais rien, j'ai jamais démarché.
T'as jamais fait de...
Non, jamais démarché. Je suis très mauvais pour ça en plus. Mais c'est suite aux albums qui sortent, les gens écoutent et m'appellent pour éventuellement bosser ensemble. Et ça se fait comme ça, quoi, comme sous le manteau, quoi.
Sous le manteau, enfin, en toute légalité.
Non, je veux pas avoir de problème.
Bah, on risque d'avoir un standard saturé.
Et c'est vrai qu'il y a une bonne proportion de groupes locaux finalement qui viennent travailler chez toi.
Pas mal.
Comment t'expliques ça, en fait? C'est
bouche
à oreille locale.
Peut-être qu'il y a pas non plus beaucoup de structures par chez nous.
Ouais.
Après, je pense que c'est un tout. C'est aussi bien. Je pense peut-être pour la qualité du son un peu, et puis la façon dont je travaille, ce qui permet d'avoir beaucoup de temps, parce que je travaille au morceau, donc on n'est pas là à se dire on prend une semaine de studio et on doit tout faire.
Petite explication, effectivement, beaucoup de studios sont plutôt, on paye à la journée.
À la journée,
en fait,
donc
alors que chez toi, on paye au titre.
Voilà, donc par exemple le P des John Doe, on a fait ça sur un mois quand même, un mois de studio.
Dans un vrai studio.
Voilà. Et donc là, ça nous permet de pouvoir aller plus loin dans les chansons, dans les titres et dans l'arrangement et ainsi de suite, quoi.
Alors on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi des projets en cours. On parlait d'actualité, il y a des enregistrements en cours aussi en ce moment.
Oui, en ce moment, Florian Mona, là ça fait un petit moment qu'on est dessus mais ça se termine. Jack Anne Lumber, qu'on a commencé assez récemment là, et puis les Monsieur Roux, le troisième album. Et puis voilà.
T'as pas un petit plan avec la Casa là?
Si, on a bossé sur deux titres là, et pour voilà, ils voulaient arranger leur morceau. Donc voilà, donc oui, c'est assez bien chargé, ouais.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan. For a lifetime. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain, stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
Écoutez Transistor, l'émission sur l'autre radio. On vient d'écouter un magnifique morceau de Nick Drake, tiré de son tout aussi magnifique premier album, paru en 1968. J'ai fait quelques petites recherches. Wikipédia, ouais. Mon amour. Donc, intitulé Five Leaf Left. Voilà, donc on demande toujours à nos invités de venir avec une petite sélection musicale, de faire la sélection musicale en fait de cette émission. Alors Romuald, pourquoi ce premier choix qui d'ailleurs est un parfait premier choix pour débuter une émission, je trouve. Bah, pour... Nick Drake, ça fait partie de ton panthéon.
Voilà, ouais, de ce que j'ai écouté, je dirais, enfin, voix guitare, quoi, avec Dylan, enfin, sur les premiers albums de Dylan, parce qu'après, c'est un peu.
Plus produit.
Ouais, plus produit, j'aime moins. Mais voilà, quoi, bah, moi, je trouve ça magnifique, quoi, et un peu. Non, voilà, c'est. J'adore, quoi, donc. C'est, je sais pas quoi dire d'autre de plus.
Est-ce que c'est une, aussi une influence, on parlait tout à l'heure de ça entre nous, du son des disques.
Oui,
est-ce que c'est une influence aussi dans la production, dans le son, puisque toi tu t'écoutes aussi sans doute les disques avec cette oreille d'ingé son, de producteur.
Oui, ouais, je trouve ça, ce son assez, comment dire, assez roots et peut-être un peu rugueux, enfin, quoique là il y avait un peu de violon, mais... Enfin, ce côté et ces voix mélodiques, ce chant. Enfin, moi, voilà, pour moi, il y a tout dans ces morceaux-là, quoi.
Il y a tout et pourtant pas grand-chose.
Et
finalement.
Pourtant c'est pas grand-chose, mais je pense que c'est plus dur à faire, quoi. On a toujours tendance à en rajouter un peu plus pour essayer de gommer certaines imperfections. Que là, quand t'as une belle voix et une jolie mélodie, voilà, t'as déjà 70% du morceau, quoi.
C'est un peu le... Je sais pas comment dire, le leitmotiv de l'ingé son, du réalisateur en studio, de dire oui, on pourrait peut-être supprimer ci, on pourrait peut-être supprimer
voilà,
ça.
Enfin,
j'ai l'impression que ça revient beaucoup.
Après,
dans,
je pense
dans,
qu'il y a plusieurs,
travail aussi.
Plusieurs étapes. Quoi. Dans la première étape, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle mettre de la matière, avoir de la matière, rechercher la couleur, en tout cas pour un album, le son aussi à la base des instruments, le choix des instruments, du son. Et une fois qu'on a tout ça, essayer de mettre ça en place et à la fin enlever, quoi, parce qu'on peut avoir de très bonnes parties mais qui servent pas le morceau, et donc autant pas les mettre, quoi, autant garder la pureté de la chose,
aller à l'essentiel,
voilà, voilà,
les purs, quoi, c'est un peu
voilà,
ça,
voilà, c'est ça, ouais.
C'est ça, c'est, un ça.
C'est une étape assez importante et parfois délicate, quoi, parce que on a un peu peur du silence. Alors que bah, le silence fait partie de la musique.
D'ailleurs, on va faire une minute de silence. Ouais. C'est pas très radiophonique, le silence, par contre.
Non, radio, non.
Nick Drake, Bob Dylan, c'est tes premières influences, les premières choses que t'écoutes ou non, tu
ouais,
commences par
ouais,
autre chose.
Ouais.
Enfin, j'imagine que dans l'univers parental, familial.
Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais pas dire ce que mes parents écoutent, mais pas du tout. Non.
Comment tu découvres ce premier disque-là, du coup?
Connaissance, voilà. Bizarrement, voilà, je m'intéressais à la musique alors que bon, il y avait rien qui me préparait à ça. Et puis après, les rencontres, on discute, on rencontre forcément des gens qui aiment la musique, donc qui font découvrir des choses, et vous êtes certaines sensibilités sur des choses, et voilà, quoi.
Et il y a le, on va dire, la première phase qui est celle de s'intéresser à la musique, souvent à l'adolescence, quoi.
Ouais.
Et comment du statut d'amateur de musique, de mélomane, on passe à la musique, puisque toi, tu as été musicien.
Ouais, ouais.
Comment
ouais.
Tu empoignes ta première guitare
Comment j'empoigne?
Bah,
je me prends par la main. J'achète une guitare, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux prendre des cours. Et puis après.
Influencé par ce que tu écoutes ou...
Ouais, ouais. Et puis voilà, surtout, je pense que ça s'est plutôt accéléré à la sortie en 90, quand j'écoutais Nirvana, quoi.
Ouais.
Un peu comme. Je ne vais pas être le seul, mais. C'est là où je découvre la musique, où je me dis putain, le mec il joue avec trois accords et ça chante, enfin ça c'est super, quoi, donc moi je peux le faire aussi, quoi.
Ouais,
et puis voilà, tout simplement, hein. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, quoi, mais c'est vraiment ça, quoi, c'est comme
je
ça que ça se passe.
Je pense que Nirvana a eu un côté complètement décomplexant pour pas mal de monde,
carrément, ouais,
qui est en fait gratouillé à cette époque-là, quoi. On s'est dit ouais, c'est possible,
c'est ça. About Girl, c'est deux accords, hein. Mi mineur et sol, donc d'ailleurs, tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, tout le monde, non. Parce qu'après, faut avoir du talent aussi, quoi.
Et c'est vrai que Nirvana, c'est un déclencheur pour beaucoup de jeunes musiciens.
Oui, bien sûr. Ouais.
J'avais vu une étude, un truc, où disait que les ventes de guitares ont sérieusement explosé en 91, 92, au moment où Nirvana explose aussi.
Bah ouais,
et ça donne envie à plein de gens de monter des groupes, quoi.
Bah ouais, et puis... Et puis oui, c'est ça. Après, ils font aussi une session acoustique qui, pareil, l'a touché. Bon, après, voilà, parce que je pense que la partie acoustique de Nirvana a touché. C'est là où ça a touché tout le monde, quoi.
Ouais, ouais. Il y avait pas les
de l'ado,
guitares, ouais.
Voilà, même aux grands-parents, hein, je pense que. Et voilà, quoi, c'est ça. Puis le charisme, et puis voilà, les chansons, les mélodies, ouais, le c'est... personnage.
Ouais, c'est ça. C'est, en plus, c'est presque 50 millions de disques vendus, je crois,
ouais,
que j'avais regardé. C'est un truc énorme. Et puis considéré depuis 20 ans comme un des groupes, enfin, le groupe.
Ça a révolutionné la. Voilà, enfin, moi, ça fait partie des groupes mais... qui, pour moi, ont révolutionné
c'est clair.
Enfin, la musique.
Tu croises pas mal de Zikos aujourd'hui, et c'est vrai, tu leur parles de Nirvana, beaucoup te disent que ça a été vraiment le phénomène déclencheur. Ouais. Comme tu as eu, en fait, c'est un point générationnel où les générations d'avant ont eu les années 70.
Les Beatles, les Stones.
Les Beatles ou les Stones, mais il y a Nirvana qui est
arrivé. Quoi.
Moi, j'ai une petite anecdote parce que j'avais acheté le Nevermind sur. J'étais à la fac, dans une cité universitaire, là. Et j'avais une chaîne Hi-Fi. J'étais le seul à la fac à avoir une chaîne Hi-Fi.
À la fac, peut-être pas quand même. Mais...
Ben non, enfin, je veux dire pas à la fac, mais dans mon étage, dans ma résidence, dans mon 8 mètres carrés. Et en fait, j'avais écouté Nirvana et ça avait super frappé à ma porte ce jour-là. Parce que j'avais foutu à fond. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là et tout. Et ça avait été un truc assez énorme en fait. Vraiment, c'était une grosse claque. Moi, ça, c'est un souvenir que je garde vraiment.
Non, parce qu'en plus, il chantait à merveille, quoi. Enfin, même si pour beaucoup de gens. Ils disent qu'il braille, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, c'est bourré de mélodies, on en parlait tout à l'heure, et au niveau du son, ça,
bien sûr, ouais.
Avec Dave Grohl à la batterie, voilà, quoi. C'est simple, mais ça marche.
Et donc, bah, Nirvana, justement, c'est le titre que tu... Ça tombe bien, c'est une transition.
C'est génial, franchement.
C'est pro, ici.
C'est le titre qu'on va écouter. Donc, voilà, c'est un album... c'est le titre qui est tiré du dernier album de Nirvana.
Troisième, je crois.
In Utero, voilà. C'est vraiment un titre voilà, que je me souviens dans ma voiture. Je l'avais mis sur toute une face de cassette.
En boucle.
En boucle.
On va voir que effectivement, écouter ça en boucle, ça peut être assez prenant.
C'est pas
du
jazz.
Vous allez voir le morceau qui s'appelle Tourette's, que certains sans doute connaissent. C'est parti. Moderate rock.
Voilà, comme le disait Romuald, ce n'est pas du jazz, hein, c'est plutôt fulgurant et ça décharge. C'était en fait Nirvana Tourette's de l'album In Utero, qui était le dernier album studio, je crois, de Nirvana, sorti en 1993. Justement, on restait bloqué un petit peu là, hors antenne, comme on dit, sur Nirvana. Mais le choix de ce morceau-là, parce que t'aurais, voilà, y avait matière aussi, mais ce morceau-là, pourquoi plus ce morceau-là en particulier, en fait?
Je sais pas, sacrément punk celui-là.
Ouais, et puis il y a une énergie, enfin une espèce de, je sais pas, de truc où tu balances la batterie, tu as l'impression de jeter ça comme ça, quoi.
Des fouloirs.
Comme ça vient, et voilà, quoi, avec une petite mélodie. Voilà.
Parce que je crois que cet album-là, en fait, a une particularité, c'est qu'il a été enregistré super rapidement.
Ouais, enfin, j'avais vu ça. Beaucoup en live, je crois.
C'était genre 5-6 jours.
Très peu de production.
Très peu de prod. Ils ont tout d'un bloc, quoi.
Ouais.
par Steve Albini d'ailleurs.
Ouais.
Enregistré par un grand producteur également.
Bah oui, du coup, oui. Carrément. Ouais.
Tu parlais de Nirvana, on parlait de Nirvana, de l'influence qu'il a pu avoir et de l'envie qu'il a pu susciter aussi de monter des groupes.
Ouais.
Et ce qui fut ton cas.
Oui,
ton
oui.
Cas, et le groupe en l'occurrence. Que tu montas.
Oui.
C'est bien.
Non, super passé simple.
D'accord, ok. Parce qu'on l'utilise peu. Hein,
ouais, c'est vrai.
De moins en moins.
Très bon.
De moins en moins.
Bah, je sais pas si c'est. Oui, c'est un passé simple.
Peut-être. Bon, bref. Bref, on verra ça après.
Oui, je me demandais pas ça. Moi.
Donc, l'Étoile Comics fut ton premier groupe.
Voilà.
Voilà. Monté à quel âge à peu près?
Moi, j'étais un plus vieux, mais 18 ans, 19, à la vingtaine, quoi, un truc comme ça, quoi. Et voilà,
avec des potes en fait, c'est voilà, des gens que tu côtoyais.
Moi je connaissais donc
lycée,
Maël au lycée, et donc voilà, et on a rencontré du coup Mathieu qui était le bassiste de Twirl Comics, et voilà, les rencontres se sont faites comme ça, et on s'est tous mis à corps perdu dans le projet, quoi, voilà, à fond. Pendant 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
Pour l'anecdote, quand vous montez le groupe, pas un ne sait jouer de la musique ou quasiment
non,
pas.
Ça, faut pas le dire. Non, non, c'est. Bah,
attends, c'est le cas quand même de pas mal de jeunes groupes aussi.
Nous, on a même fait des t-shirts avant d'avoir des morceaux. Donc,
c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand même. Ouais.
Donc voilà quoi.
C'est vrai que c'était assez ce qui était exceptionnel chez les Twirls, c'est qu'ils avaient par contre, ils étaient très très avancés sur l'organisation du groupe, la promo,
la com.
Ils étaient
assez avant-gardistes.
Ouais. Assez avant-gardistes par rapport à pas mal de groupes. Ils se démerdaient bien.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Faire des t-shirts avant quand même.
Effectivement, un des seuls groupes du monde qui a eu des t-shirts avant d'avoir enregistré le moindre morceau.
Je pense. Et même avoir le moindre morceau parce que.
Avoir même peut-être même jamais joué une note.
Oh, on va pas aller jusque là, mais voilà, c'était encore au stade de l'embryon, quoi, on va dire.
Mais en même temps, il y a eu une évolution.
Après, oui. Après, on a quand même travaillé assez dur. On répétait tous les jours et vraiment des horaires de bureau, quoi. On a vraiment travaillé, quoi.
C'était l'envie de vivre le rock, quoi, la musique.
Voilà, c'est ça, la passion.
Donc tout le monde arrête les études ou le boulot.
Ouais, on fait tous objecteurs de conscience en même temps pour être tranquille.
On loue une maison.
Et voilà, et donc on habite tous ensemble. Et puis voilà, quoi. On buvait, on mangeait Twirl Comics.
Ouais, c'était une vraie communauté, quoi. Il y avait vraiment un esprit communauté qui était assez extraordinaire.
C'est
5 ans de votre vie vraiment à donf, vraiment
à fond. On a fait des belles choses et du coup c'est
ça a été finalement la première marche, celle qui vous a emmené vers autre chose, vers ce que tu fais aujourd'hui,
c'est une étape, oui, voilà, quoi. C'est là où on fait nos premiers concerts, on rencontre des personnes, première fois qu'on s'occupe de nous, qu'on rencontre un tourneur. À l'époque, c'était l'abordage, c'était le groupe Dolly qui cartonnait. Donc,
qui vous a pas mal soutenu.
Qui nous a même soutenu, même si c'est un peu grâce à eux qu'on a eu des bonnes choses. Quoi. Mm-hmm. Et puis voilà, quoi, c'est, et puis on devient intermittent avec ce projet-là, avec un peu de mal quand même,
ouais,
parce qu'on faisait beaucoup de galères, beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, on va dire, pas terrible, moyen, mais... Donc voilà, c'est vraiment, oui, c'est là où on se dit, bon, moi je veux faire que ça, et on arrête tout et on fait que ça, quoi. Un peu maso, quoi, quand même.
Mais en même temps, c'est le rêve que beaucoup de gens...
C'était notre... Enfin, c'était, voilà, Nirvana, c'était ça, quoi. C'était, nous, on veut faire pareil, quoi.
Et puis il y a eu des disques aussi avec les Twirl Comics. Vous avez enregistré plusieurs, des albums.
Ouais, on n'a jamais enregistré d'album parce qu'on voulait faire. C'est peut-être dommage. On voulait faire que des bons titres, aller enregistrer bon studio, avoir le bon son. Et donc ça coûtait cher. Donc on s'était dit, on va faire des maxi, quoi. Et donc oui, il y a deux maxi qui sont sortis. Et on a fait un vinyle aussi pour notre plaisir. Et voilà.
Et est-ce que à cette époque-là,
et une
déjà...
cassette.
Et oui, la première cassette d'ailleurs.
Oui, que j'ai réécoutée il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est une première cassette.
Ouais, c'est vrai que... Heureusement que c'est une première cassette, quoi.
Ouais. Heureusement que plus personne n'a de lecteur cassette chez lui.
Et bien, c'est ce soir, on va l'écouter.
Salut. C'est rentré dans le patrimoine puisque ça a été exposé au Rocky Naval.
Mais voilà. la pochette, elle est belle. Après, bon, les titres, voilà. Quoi, c'est...
Encore ce souci de la communication qui était prégnant.
C'était... Du coup,
Et est-ce que ces premiers passages en studio, justement, c'est... aussi pour toi l'occasion de découvrir justement l'univers du studio. Est-ce que déjà tu t'intéresses à ça, toi, à l'époque?
Pas du tout. Moi, à l'époque, je m'intéresse plutôt au son en général, le son de guitare ou même des effets, enfin des choses comme ça, mais pas réellement au studio, quoi.
Walk marathons and take on whatever together.
C'était les Grand Daddy, le troisième album, je crois, Under the Western Freeway, sorti en 1997. Et pour l'anecdote, je crois qu'il est le premier sorti en CD, comme on disait tout à l'heure, qui a été distribué à plus grande échelle, en fait. Ouais. Mais pourquoi justement, pareil, hein, comme tout à l'heure, ce choix particulier, ça a été...
C'était le son, les mélodies. Mm. Les mélodies, c'est... tout un peu, puis ces petits gimmicks où on va tous se coucher avec ce soir.
C'est un groupe assez particulier, enfin, tu peux nous le présenter un petit peu pour ceux qui connaissent pas un peu
Grand Daddy. Ils sont originaires, alors je sais plus, je crois que c'est pas des Texans ou un truc comme ça, assez paysan, assez rural, plutôt que paysan, tous avec leur casquette John Deere et
leur chemise à carreaux.
Très naturel, très Et donc voilà quoi, c'est écoutez l'album, hein, c'est
ouais, t'as un disque à conseiller par rapport à
je crois qu'ils en ont fait 5 celui-ci, parce que le premier je le trouve quand même découverte, et après les autres sont un peu plus produits, mais toujours dans cette je sais pas comment expliquer, à la fois route, ouais. Mais avec un vrai son.
Il y a un côté, en fait, ce qui annonce aussi d'autres artistes comme Beck, par exemple.
Oui, voilà.
Ce côté à la fois
bricolage, un peu.
Bricolage. Ouais. On va utiliser des sons enregistrés sur un dictaphone.
Là,
avec un
jouet,
gros son de batterie, un mélange de sons cheap et de sons très produits.
Voilà,
qui crée un univers, en fait, et qui fait dire aussi que tout est possible dans le son. On peut tout mélanger.
Et c'est bien.
Plus de complexe. Voilà,
un peu dans la veine Lofi, un petit peu aussi.
Oui, complètement.
C'est un peu le début aussi.
Quasiment, ouais, voilà, mm-hmm. C'est ça. Ouais.
Ça a été une influence donc pour les Twirl là-dessus ou...
Pour les Twirl.
Parce qu'en 97, les Twirl existent encore. Hein.
Ouais,
la
ouais,
séparation
ouais,
du groupe, c'est plutôt fin des années 90.
Ouais, c'est 2000.
C'est ma mémoire d'historien.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais, parce que la mienne, je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus. Mais...
Depuis, je suis tombé d'un toit, moi je me rappelle plus.
Depuis que.
Il me semble que la fin des Twirl Comics, c'est 2000.
2000, chose. Voilà, mm-hmm. Ça. Donc, oui, bah. Après, c'est venu forcément quand tu fais de la musique, t'écoutes ce qui se fait et puis voilà, t'es influencé, t'es touché par ça plus que
par d'autres choses.
Par d'autres choses, quoi. Là,
et toi, t'es quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, qui tient au courant de l'actualité musicale
de moins en moins, mais comme je vois beaucoup de gens.
Passer chez toi.
Voilà, je découvre plein de musique, quoi. Tout à l'heure, on va écouter un disque, et voilà, c'est Florian Mona qui m'a fait découvrir ça, et voilà, quoi. Donc, j'ai cette chance-là, quoi.
Il y avait chez les Twirls, et puis, je pense, dans ta culture musicale aussi, une grande ouverture, un éclectisme assez. Assez fort, quoi. Je me souviens que le groupe citait aussi bien Tricky, les Beastie Boys,
oui,
que Nirvana, justement.
Beastie Boys, j'ai hésité à en mettre, mais c'est pareil, ça fait partie de ma culture, un peu skater.
Skater refoulé.
Ouais, voilà, qui sait pas très bien faire du skate, mais bon, voilà, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est toujours ce son, les Beastie, les premiers albums, c'est punk, c'est.
C'est côté lofi aussi.
Là, ils envoient
c'est,
ça.
C'est un groupe punk à l'origine,
ouais,
des Beastie.
Ouais, c'est ça. Façon, donc, c'est... après, plus. Ils ont plus. Mais un hip-hop, pareil, un peu bricolage. Ouais,
un peu déviant.
Voilà, c'est ça, avec une imagerie, voilà, super. Enfin, des clips assez monstrueux pour l'époque, quoi, qu'ils font eux-mêmes et. Voilà, quoi. Un peu indépendant dans la. Façon de faire les choses, quoi. Qui vont pas forcément, qui peuvent tout faire eux-mêmes, quoi. En gros, c'est
le
ça.
Le côté do it yourself,
ouais.
Que vous avez vachement expérimenté d'ailleurs à cette époque avec ce groupe.
Ouais, complètement.
Puisque effectivement, il n'y a pas eu de maison de disque, il y a eu un tourneur, mais
oui.
Vous faisiez beaucoup de choses par vous-même finalement. Beaucoup de choses.
Oui, effectivement. Ce qui est à la fin un peu usant aussi, quoi. Donc, voilà, c'est quand rien ne se passe et au bout d'un moment. Voilà.
Et donc l'aventure Twirl Comics s'arrête donc au début des années 2000 et évolue quand même vers autre chose, puisque Maël, qui était le chanteur du groupe,
voilà,
à ce moment-là monte son projet solo sous son nom d'ailleurs, Maël,
ouais,
auquel toi tu collabores dès le départ, en fait.
Voilà,
vers une inclinaison plus chanson, du coup.
Plus chanson, ouais, parce que c'est vrai que on nous demandait avec Twirl Comics d'écrire enfin chanter en français.
Les maisons de disques.
Bon, après, quand tu fais du rock, entre guillemets, je trouve ça super délicat, quoi. Et donc, il a commencé à écrire voix guitare. Et voilà, donc il nous a demandé si ça nous intéressait d'être du coup musicien sur ce projet-là. Et,
ouais.
Et contrairement à Twirl Comics, ça a été plutôt très rapide, quoi. Parce qu'il y a une major qui s'est intéressée au projet de Maël et du coup, c'est ça. Et donc ça a été très vite à rencontrer Mathieu Ballet, le producteur de Miossec à l'époque. Il avait fait Brûle, je crois. Oui, c'est ça.
Ouais.
Et donc voilà, on part enregistrer et donc l'album, on se vend plus ou moins bien, mais Bon, je crois que c'est 10, 15 000.
Ouais, ce qui à l'époque était déjà pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui,
ouais. Est-ce qu'aujourd'hui est énorme ?
Oui, oui, à l'époque c'était plutôt moyen, mais allez, aujourd'hui ça serait plutôt énorme.
Bah ouais, ouais. Ouais.
Et puis voilà, on fait des super dates, on fait la cigale, on fait des trucs pour nous.
Enfin, vous accédez à des scènes que voilà. Vous rêviez d'accéder, auxquelles vous rêviez d'accéder avec le groupe précédent.
C'est
quoi.
Ça, voilà. Et donc ça dure, ouais, ça dure 2-3 ans, oui, quand même.
Parce qu'il y a un deuxième disque derrière.
Ouais, donc après, bon ben, voilà, il se fait virer de sa maison de disque, et du coup, il y avait un deuxième album qui avait été signé, donc on le fait quand même. Donc c'est là où je commence à, voilà, plutôt, à enregistrer quelques trucs sur un 8 pistes à bande. Et du coup, on le fait nous-mêmes avec l'aide dans le studio des Dolly, quoi. Avec
D'accord, ok.
Voilà, et donc
l'album... C'est la première fois que tu touches aux machines, à l'enregistrement, en fait.
Voilà, ouais. Ouais, voilà, pour faire des pré-maquettes, prises. Quoi. Mmh. Donc, sur lesquelles on a gardé des trucs, quoi. Mmh. Et donc, du coup, ça, au niveau de la tournée, ça marche moins. Donc,
avec ce
deuxième disque. Donc, voilà, quoi. Donc, on se dit, on va pas arrêter là. Avec Florian, il a des titres. Donc, Florian, le batteur de Maël aussi. Et donc, voilà, arrive Monarica.
Voilà. Et Monarica, qui est aussi un projet chanté en français.
Voilà, oui.
Et c'est parce que, finalement, dans vos influences, même si on a beaucoup parlé d'influences anglo-saxonnes, de groupes plutôt situés rock, musique amplifiée, il y avait aussi dans ce que vous écoutiez, dans ce que vous aimiez, forcément, pour que vous arriviez aussi à ce genre de musique,
ouais.
Un goût pour le texte en français, pour la chanson française. Oui, bah, tu parlais de Mio Sec.
Je pense, moi, j'écris pas de texte, je suis pas auteur, mais je pense que c'est plus simple d'écrire en français parce que c'est la langue maternelle, quoi, qu'en anglais. Voilà, et puis après, c'est pareil, il faut savoir le chanter. Quand tu chantes en anglais. Avoir l'accent
alors
de
ça,
la loi, quoi.
C'est un débat parce qu'en même ça dépend quelle musique tu fais finalement, puisque quand tu fais du rock, on le disait aussi tout à l'heure,
oui.
Tu le disais toi-même, oui. D'ailleurs, placer du français sur des rythmiques rock.
Voilà, ça dépend de ce que tu fais aussi. Quoi. C'est...
Puis il faut avoir une plume quand même.
Voilà, ouais. Ouais.
Mais puisqu'on cause justement de chansons françaises.
Chansons françaises.
Ouais, justement, écoutons-en un peu de chansons françaises avec ton quatrième choix,
ouais.
Celui de Dominica avec Immortel.
Je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné? Que des dieux se cachaient sous nos faces avinées. Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Qu'en se mordant la bouche, le gouant revenait, et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels, immortels, immortels. Ah.
As-tu pensé parfois que rien ne finirait et qu'on soit là ou pas? Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels, immortels, immortels.
Dominica avec Immortel sur son dernier album sorti en 2009, La musique et la matière. Superbe choix, ma foi.
Oui,
cher Romuald.
Non, bah, ça fait, comme on disait tout à l'heure, je pense que Dominica, enfin en tout cas pour moi, fait en chanson française actuellement, c'est, pour moi c'est ce qu'il y a. Il y a de mieux, quoi. Mmh.
Ça fait partie du top.
Oui, ouais, ouais, je pense. Ouais. Le niveau, le niveau est assez élevé, quoi.
Mmh. Et tu parlais aussi de Miossec tout à l'heure. C'est notamment de son premier album.
Pouvoir,
c'est
ouais.
Quelqu'un aussi qui t'a.
Moi, j'écoutais. Voilà, quand j'ai découvert ça, voilà, c'est. J'ai trouvé ça. Voilà, ça m'a réconcilié un peu avec le texte en français, quoi. Mmh. Et oui, voilà.
Parce qu'il y avait une approche, effectivement, un texte en français, aussi bien de Dominica que Miossec, d'ailleurs, qu'on a pas mal rapproché au début, parce qu'ils sont arrivés un peu au même moment.
Ouais, ouais, carrément.
Et il y a à la fois une approche, voilà, chanson française, un texte, mais en même temps, une approche et une attitude rock.
Oui, complètement.
C'est ça aussi qui fait la différence, peut-être, puis... avec. La chanson française.
Oui, et puis
général,
surtout Dominica. Dans
c'est des gens qui viennent de
la
culture rock.
La recherche du son, quoi. Ouais. C'est important, quoi. C'est pas. Il y a une vraie, un vrai travail quoi, de son. Peut-être qu'il y a un peu moins dans Miossec, en tout cas les premiers qui étaient plus acoustiques.
Ouais.
Mais Dominica, oui, en termes de son, de sonorité, c'est assez exceptionnel.
Non, c'était juste pour préciser, d'ailleurs, enfin, on parlait de chansons françaises, mais en fait, Dominica était un peu le révélateur. Ils appelaient ça à l'époque la, scène, la nouvelle scène française. Alors, tu savais pas ce que ça voulait dire. Hein, c'était super drôle. Donc, tu avais la nouvelle scène française avec forcément un nouveau public, mais il y avait quand même le point commun, c'était ça. Ouais, c'était une attitude quand même rock
complètement,
au départ. Ouais. Parce que moi, enfin, ouais, chansons françaises, j'ai du mal à comparer quand même Dominica dans ce registre-là, enfin,
ouais.
Même si, mais le texte est toujours, magnifique,
voilà, mis en avant, mais c'est oui.
Mais c'était un côté assez aussi minimaliste. T'as toujours aussi un côté très minimaliste dans le choix de tes morceaux. Tu sens ça en fait. Tu sens qu'il y a.
Mais c'est vrai qu'on dit la chanson française, mais chanson française, c'est pas que Brassens ou que voilà. C'est tu chantes en français, tu fais de la chanson française. Mmh. Après, voilà, peut-être un peu plus pop ou rock, mais. Voilà, c'est la chanson française.
Bon,
ce qui était le cas,
je vais pas m'attarder plus longtemps, parce que là je sens que je vais ramer.
Non, mais excuse-moi, parfois je lance des pistes comme ça parce que hop, je me dis mais non,
on peut faire un débat.
Mais non,
c'est bon, je me casse.
Quelle la chanson française.
Mais on était un peu dans cette influence là, on va pas non plus. Mais Monarica, on était aussi sur cette
c'est la chanson française aussi quoi, c'est après voilà quoi, c'est Je pense que c'est assez vaste, hein, la chanson française.
On va revenir sur Monarica, juste une précision sur ce qu'on a écouté, donc le titre de Dominica, qui était enregistré, enfin en tout cas mixé par Dominique Brusson,
oui.
Qui est un ingé son aussi originaire de Laval d'ailleurs, ouais. Hein, que de talent, ouais. Que de talent, ouais, sont nés à Laval, c'est fou.
La plaque, hein, tournante.
Et voilà, qui
Seattle de l'Ouest.
Qui est une référence pour toi, qui t'aimes son travail. Est-ce qu'on s'écoute entre ingé son, est-ce que tu écoutes le travail des ingé son, est-ce que tu as une oreille par rapport à ça? Tu regardes sur la pochette du disque qui a enregistré, tu reconnais les pattes.
Ça m'arrive quand je trouve l'album bien, oui, forcément je regarde. Après. De là à dire que je fais la même chose, non. Je pense pas avoir. Mais bon, après, c'est un tout. Un son, c'est celui qui l'enregistre, mais il y a aussi celui qui joue derrière, les idées. Enfin, c'est un tout, quoi. Ouais. On peut prendre un super. On peut prendre, je sais pas moi, Nigel Godrich, voilà. Et puis tu le mets.
Nigel Godrich, voilà, qui enregistrait Radiohead, par exemple. Voilà,
et tu le mets enregistrer à Nick Cordy, je pense que ça va pas forcément être super, quoi. Tu vois.
Mais c'est rigolo que tu cites ce nom.
C'est plutôt un mélange, une espèce de recette, de cuisine, quoi.
Mais tu cites ce nom, Nigel Godrich. Ouais. Il y a quelques noms comme ça, on pourrait citer plus anciens. Quelqu'un comme George Martin avec les Beatles,
oui, voilà, ouais.
Ou Steve Albini dont on parlait tout à l'heure, qui finalement sont des gens de l'ombre, qui sont ceux qui enregistrent,
mais qui influencent, mais finalement, quelque,
ouais,
part,
et puis qui sont devenus presque des stars aussi, alors qu'ils sont, ouais, ouais, ils sont derrière les manettes, ouais, en, ouais, fait. Le producteur prend une sorte d'importance comme ça.
Bah, je pense que oui, puisque forcément il donne un son, une façon de faire au morceau, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, tu prends un titre, tu le fais mixer par 5 personnes, il va sonner différemment parce que voilà, c'est le plus important, je pense, quand tu fais en tout cas la réalisation de la prod, c'est avant tout d'avoir un son, une espèce de savoir-faire. C'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose.
C'est une forme de patte, enfin voilà, c'est ça. Quelque chose que tu vas reconnaître forcément.
Je pense que du coup, tu peux pas tout faire, tous les styles musicaux, quoi. Tu peux pas.
Tu n'enregistreras pas de métal.
Non, puisque ça sera du métal pop, quoi.
Donc ils ne seront pas forcément contents.
Non, voilà, c'est ça. Et puis moi non plus. Et puis, c'est une culture. Hein,
Oui, c'est ça. Elle est forcément. Elle est aussi liée indirectement à ta culture musicale,
bien sûr,
à tes goûts.
Mais...
Enfin, c'est, ouais,
c'est,
c'est,
ça, c'est, enfin, c'est obligé. Enfin, ça va de soi, quoi. Tu peux pas tout faire.
Monarica, donc, qui se forme. Dans les années, au début des années 2000, autour et par Florian Blin, qui était le batteur de Twirl Comics,
voilà.
Et qui monte son projet solo, donc Monarica, auquel tu vas participer activement, je crois, parce que tu fais l'enregistrement de cet album. C'est le premier album que tu enregistres,
voilà,
tout seul.
Au début, c'est Florian a des titres, donc Maël s'arrête pour le deuxième album, enfin ça tourne pas, et donc nous, intermittents, on se dit. Il va falloir faire des concerts un peu quand même. Donc Florian a des titres, moi je trouve ça pas mal. Et on se dit, bon, on va faire des maquettes pour pour tourner, enfin classique, quoi.
Ouais.
Et du coup, on a toujours des contacts avec Mathieu Ballet qui vend une partie de son matériel.
Donc, Mathieu Ballet, ouais, qui a enregistré le premier album de Maël. Ouais.
Et du coup, on rachète son matériel à trois. Et je me mets devant la machine et j'y suis encore, quoi. Enfin, c'est plus la même chose, ça a évolué. Et voilà, quoi. Donc, moi, je fais ça, j'y connais rien du tout, quoi.
Ça a été le déclic. Il y a eu quelque chose qui. Une nuit agitée.
Non,
tu t'es réveillé, un gesson.
Je me suis mis devant un ordinateur qui, pour moi, c'était plus. Enfin, j'avais jamais. Toucher un ordinateur de ma vie. Et Florian me laisse dessus parce que lui, il n'est pas branché. Et je me mets à enregistrer. Et j'aime ça, je pense. Je trouve ça bien, je trouve ça cool. Et donc, on fait des titres et voilà, ça plaît à des gens. Et l'album sort.
Mais comment tu apprends à enregistrer ? En autodidacte, comme avec les Twirl Comics, finalement.
J'ai toujours procédé comme ça, moi. J'ai jamais fait d'école, si bien que ça soit le conservatoire. Moi, je dis souvent que je fais de la musique bio sans conservatoire.
Ah, pas mal. Mais, pas mal.
Ouais, je la trouve pas mal aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit je vais essayer de la placer. Et donc, voilà. Et je me mets. Et donc, tu cherches. Voilà, je cherche. Et,
tu perds du temps, mais t'en gagnes au final parce que t'apprends.
Ouais, t'en perds hein, quand même. Hein, t'en perds du temps. Ouais. Et puis, bah, l'album sort. Donc, il marche pas. Voilà, encore un. Et puis, par contre, du coup, suite à cet album, il y a plusieurs groupes qui viennent me voir pour que je leur enregistre leur album. Et moi, je sais pas comment ça se passe, quoi, du coup, parce que j'ai jamais fait ça.
Donc, t'avais toujours enregistré avec tes potes et du coup.
Bah, c'est surtout la première fois que j'enregistre un album. Donc, j'avais fait ça avec Florian, on avait fait ça tous les deux. Voilà, comme en tant qu'amis, quoi. Donc, tu fais ça, moi je cherchais. Donc, je me dis là, il y a un mec qui vient, il va me payer pour faire ça. Ça a plutôt intérêt d'être bien, quoi. Et je sais pas, j'ai pas de micro, j'ai rien, j'emprunte des micros un peu partout. Je sais pas trop comment ça se passe. Et du coup, voilà. Et donc, après, je fais Auguste.
C'était quel groupe, du coup, qui était
Auguste,
ouais.
Et après, Monsieur Roux.
Monsieur Roux,
voilà. Et donc je fais ça et voilà quoi, et Monsieur Roux du coup voilà, ça marche.
Ouf. Bon bah voilà, c'est nombreuses péripéties. On va justement écouter un titre du premier disque que tu as enregistré, celui de Monarica.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis.
Voilà, Monarica avec lequel tu jouais aussi. Il y avait il y avait Cisco, je crois, à la trompette.
Oui, à la trompette.
Et puis Fudge
De sine qua non.
De sine qua non au platine. Ouais, donc on y va avec le titre Monarica Dream.
Je glisse au petit matin sur le dos d'une ou deux vagues. Quand la fatigue doucement me vient, je m'étale sur un lit d'algues. Après une sieste bien méritée, je sens monter l'excitation. Je prends un grand verre de saké et retourne faire le poisson. Je pars pour Monarica. Je pars pour Monarica. Avec un air décontracté, je décide de prendre la fuite, juste pour ne pas oublier. Je filme la mer en Super 8. Bien assis sur mon canasson, j'écoute ce bon vieux Dylan. Les grands espaces à l'horizon, je prends la route avec mon âne. Je pars pour Monarica. Je pars pour Monarica. Je pars pour Monarica.
Voilà, donc ça fait du bien de réécouter ce morceau qu'on avait oublié un peu, parce que c'était sorti en 2004 sur le premier album et unique album de Monarica. Monarica, il s'appelait Notre Arizona d'ailleurs, cet album-là.
Avec un feat avec Bob Dylan, puisque c'est un sample de Bob Dylan.
Ah, c'est un sample de Bob Dylan, ouais. Assez neuf hein, pour la scène mayonnaise à l'époque.
Ouais.
C'est vrai, c'était, c'était assez rafraîchissant, on va dire.
Oui, ouais.
Un bon disque qui, malheureusement, effectivement, comme tu le disais, marchait moyennement.
Je devrais pas le dire, mais bon.
Mais ça n'en reste pas
moins. C'est une malédiction.
Il y avait des bons titres là-dessus. Et puis, effectivement, ça a été un déclencheur qui t'a permis de travailler avec d'autres artistes que tu citais tout à l'heure, notamment Monsieur Roux, qui a été un artiste qui avait en tout cas, à ce moment-là, qui a connu un succès. Assez plus que régional, quoi, même national.
Ah oui, puisque je crois
que ça t'a lancé aussi cette réussite là.
Oui, c'est parce que suite à donc à cet album là, des groupes sont venus voir pour enregistrer des albums, et donc oui, enfin, c'était un peu l'élément déclencheur, quoi, de la chose. Et donc oui, pour en revenir à Monsieur Roux, oui, c'est voilà, quoi, c'était pareil, hein, c'est le groupe de Rennes, ça faisait 2 ans qu'ils faisaient de la musique, on a enregistré l'album, et au début, il me dit, on va en tirer 2000, moi j'étais là, oulala, attends, 2000,
c'est beaucoup,
si on les vend, et en 15 jours, il m'avait rappelé, il me dit, bah, on va en tirer 5000, parce qu'ils sont tous partis, et je crois qu'actuellement, ils en vendent toujours un peu, ils doivent être rendus à 40 000.
D'accord. De ce
donc
premier
si
disque.
C'est rétroactif, j'aurai peut-être mon premier disque d'or.
Ah oui, c'est vrai que le disque d'or...
Puisqu'il a chuté maintenant.
Oui, ça combien, maintenant.
Je crois que c'est 50 000 ou 45 000.
Ouais. Ah oui, d'accord.
D'accord, donc
c'était
100 000
à l'époque. Ouais.
On n'est pas loin du disque d'or.
Donc on peut faire un appel, aller
acheter le disque de Monsieur Roux.
Pour que Romuald se
le premier, le premier.
Le premier, voilà. En plus du calendrier de l'avant, à la fin de l'émission, il y a aussi... Voilà, c'est cadeau.
Cadeau, enfin, il faut le payer quand même.
Enfin, il faut le payer un petit peu, oui.
Et à cette époque-là, tu enregistres encore avec du matériel analogique, puisque au départ, et il me semble que c'est ce type de matériel là dont tu disposais.
Non, sur Monarica on s'était équipé d'un Pro Tools,
d'accord,
donc, voilà,
un logiciel de montage
de musique, voilà. Et donc là non, là c'est plutôt un peu l'ère numérique, mais toujours avec une part d'analogie en périphérie quand même.
C'est important pour toi de garder aussi des éléments analogiques dans ton travail de production.
Oui, ça fait partie du son. Je pense que même si actuellement il y a de plus en plus de super choses numériques qui retranscrivent le son d'analogique, un ampli à lampe ou une guitare ou un compresseur à lampe, voilà, quoi, c'est pas encore un plugin, quoi.
Le numérique remplace pas ces outils.
Ouais, puis en plus, j'écoutais l'autre jour une interview d'Arthur H, qui son dernier album justement l'a fait totalement en analogique, parce que comme il l'expliquait, qu'il y avait ce retour, en fait, il a expérimenté les deux façons.
Les deux,
Et en fait, il expliquait qu'il y avait il recherchait ce son un peu chaud qu'il n'avait pas forcément en numérique, quoi.
Ouais.
Mais toi, t'es voilà, il n'y a pas une prédilection pour l'un ou pour l'autre, comme tu dis, c'est un tout.
Des deux, parce que ça facilite quand même énormément. La chose, hein, le numérique, voilà, les logiciels comme ça, c'est tu peux faire ce que tu veux, quoi, hein, c'est après il faut savoir s'en servir à bon escient, quoi. Pas non plus faire n'importe quoi.
Là où le numérique apporte vraiment un plus énorme, c'est surtout le travail de montage, c'est-à-dire qu'avant, quand on enregistrait un analogique, il fallait tout faire en une prise.
Si on
voulait découper, il fallait prendre ses petits ciseaux et découper la bande.
Voilà.
On pouvait rien retravailler, en fait, tout était beaucoup plus direct.
Voilà, oui, donc ce qui est pas mal, puisqu'on laisse des imperfections, mais voilà. Moi, sur des albums, on parlait d'August. Il a quand même été bien édité l'album, et il y a plein de gens qui ont cru que c'était un album enregistré en live, quoi, donc c'est plutôt positif, quoi.
On parlait justement de tes collaborations avec Maël, Monsieur Roux, La Casa, il y a eu Moreau aussi, oui, on a oublié, Moreau, Florian, oui. Mona, Sine qua non, enfin oui. Comme on dit beaucoup. Et comme on citait en début d'émission, bah, tous ces disques, et tu parlais tout à l'heure d'une patte, d'un son, voilà, Romuald quoi, enfin Monsieur Romuald Gavlin. Et justement, qu'est-ce que tu cherches toi comme rendu par rapport à ça? Donc tu parlais aussi, c'était un travail en lien avec forcément l'artiste, ouais. Mais t'as une idée déjà quand une personne arrive, vient frapper à ta porte en disant bon bah voilà.
Ça j'ai une idée, non pas forcément. Je pense que ça se fait. La couleur du, c'est ce qui est le plus, enfin pour moi le plus important, peut-être le plus dur, trouver la couleur de l'album. Après c'est assez schématique, mais trouver une couleur, une ambiance, un truc. Et puis après, comme je dis souvent, je me fie vraiment à mes oreilles quoi. À ma sensibilité, on va dire, mais à ce que je, voilà, c'est de trouver ce, je voilà, je sais pas, c'est vraiment une sensibilité, un truc.
Effectivement, il y a un son Romuald Gavlin.
Ouais.
Après,
je vais déposer le brevet.
On a du mal à définir lequel, ce qu'il y a en fait, mais une sorte de. Enfin, je me souviens d'interview, tu disais que tu essayais de mettre de l'air dans la musique, d'avoir une. On parlait de l'épure aussi, effectivement.
Ouais, voilà.
C'est ces choses-là qui ressortent, ça respire, quoi.
Voilà, quand j'écoute un morceau, on parlait de Nick Drake ou de Grand Daddy, voilà, c'est que ça soit voix-guitare ou un peu plus produit, ou. Voilà, c'est. Faut que ça. Voilà, faut que ça respire, faut pas que ça soit chiant à écouter. Et que dans les choix de son soient assez cohérents et quelque chose de particulier quoi, voilà, pas forcément tu vois, plutôt que de mettre un piano numérique, peut-être bah du coup on va mettre un Casio voilà, qui a un son un peu plus sympa ou autre chose quoi.
Justement c'est ça aussi qui peut-être crée un son, c'est le fait que tu as beaucoup d'instruments dans le studio,
ouais.
Et que tu proposes souvent justement aux musiciens, même s'ils connaissent pas ces instruments, oui, de les ajouter, de les utiliser dans les morceaux. Enfin, du coup, ça amène aussi des nouvelles choses dans l'univers musical des groupes.
Ouais, ouais.
On pense à John Doe par exemple, qui utilise des instruments sur son dernier EP qu'il avait jamais utilisé, comme le clavier, comme le
piano aussi,
la mandoline ou le ukulélé, enfin ces petites choses.
C'est aussi le cas de Babel. Tu parlais tout à l'heure, parce que Babel en fait, moi m'avait raconté sur une autre interview que l'idée de monter un groupe, enfin un quartet, c'est quand même décidé un petit peu par le travail de studio. Et quand tu vois Gypsy le premier, la touche banjo, tu dis ouais, c'est Romuald, enfin direct.
Un peu associé au banjo.
Mais
voilà quoi, ça, quand t'écoutes Babel, ce qu'il faisait avant, et sur l'évadé, il y a un peu de Romuald là-dedans quand même, ça, il y a une patte quand même.
Ouais.
Mais ça veut dire aussi, c'est aussi que t'es pas là uniquement que pour enregistrer l'histoire.
Non, oui, bien sûr.
Tu participes aussi au projet, quoi, activement.
Oui. Moi, c'est ce que j'aime. Si c'est pour faire juste des prises de son, je vois pas l'intérêt. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas mon truc.
Tu trouves pas ton.
Non, je trouve pas. Enfin, je pense que je m'épanouirais pas à faire ça, quoi. Donc, non, c'est ce que j'aime, c'est. Prendre un morceau, et souvent j'écoute très peu les titres et je les découvre quasiment quand il y joue quoi. Donc voilà, c'est ça. Mais pour en revenir au son, il faut, moi j'essaye de me, comment dire, de me raisonner un peu, parce que on ferait vite la même chose quoi, le banjo, le glockenspiel,
ouais. Ce que tu aimes,
voilà, ceux qui écoutent voilà, le ukulélé par exemple, voilà. Voilà.
J'ai pas voulu le dire.
Non, mais mais c'est important de faire ça, d'essayer de se renouveler. Donc moi, je peux faire, ça peut bête, mais chaque année, j'essaye de trouver un nouvel instrument, quelque chose en plus.
Ouais. Donc il va plus y avoir de place bientôt.
Non, puis après c'est difficile, parce qu'après il y a des instruments, faut savoir en jouer quand même quoi.
Puis il y en a qui coûtent cher aussi.
Puis il y en a qui coûtent cher.
Oui.
Donc voilà quoi. Je voulais m'acheter un Rhodes par exemple, un piano Rhodes. Bon, quand j'ai vu les prix, je me suis dit bon d'accord, 2000 €. Bon. Mais donc voilà.
Enregistrer quelques albums.
Quoi. Ouais.
On peut faire une souscription ce soir, et on peut lancer aussi
avec
un appel,
le disque de Monsieur Roux et donc le calendrier de l'avant.
Voilà. Donc... un Rhodes pour Romuald.
Est-ce qu'il y a un avant et un après? C'est-à-dire, est-ce que les chansons quand elles arrivent en studio, elles sont différentes de de ce qu'elles étaient quand elles ressortent. Est-ce que vraiment on voit une évolution nette?
Tu veux dire par rapport aux...
Les musiciens arrivent avec un morceau ils l'ont pensé. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'ils ont amené et ce qui sort du travail qu'ils font avec toi? Enfin, ça dépend peut-être des groupes, ça dépend
après,
peut-être des titres.
Après, faudrait leur demander, mais...
Vous savez le dire.
Ouais, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui, un peu. Voilà, mais après, faudrait leur demander, oui, je pense.
Alors, je sais pas si c'est parce que tu aimes le son de ce disque que tu l'as choisi, mais effectivement, ça a été en tout cas une surprise pour moi quand tu m'as envoyé ta petite sélection.
Je m'en doutais.
De découvrir au milieu des Nick Drake, Grand Daddy et Nirvana un titre de Madonna. Donc voilà, alors je sais pas ce qui t'a poussé à choisir ce titre.
Alors moi, je trouve que cet album, je le trouve vraiment
American
très bien.
Life.
Ouais.
Neuvième album de Nirvana.
Enregistré par Mirwes. Par Mirwes.
Nirvana.
De Nirvana.
Enregistré notamment par Mirwes. Et je trouve ça. Moi, je pensais jamais écouter un album de Madonna de ma vie. Et cet album-là, je sais pas, moi j'ai trouvé super bien, quoi, super bien fait. Et j'ai trouvé assez couillu pour quelqu'un comme Madonna de faire un album comme ça. Et cette espèce de coupure assumée, d'édite complètement assumée, des fois elles sont même, on a laissé les points de, enfin les clics de montage, comme on dit. J'ai trouvé ça assez couillu et je le trouve vraiment...
Il y a un côté lofi aussi.
Ouais, bien branlé avec cette guitare acoustique un peu... on y a été au ciseau. Et j'ai trouvé ça assez... moi, ça m'a bien plu. Et je me suis dit, je vais le mettre.
Cool. Donc
et je l'ai réécouté avant quand même.
Ouais, il est bien ce titre.
Tabasser quand
j'avoue.
Même.
Flow. commence en...
Et voilà, c'était en fait deux titres qu'on a enchaînés. Une fin assez royale.
Avant que le spectacle ne commence.
deux titres qu'on a enchaînés. Donc on parlait de Madonna tout à l'heure sur l'album American Life. Le morceau s'appelait Hollywood, sorti en 2003. Et puis Baxter Dury, justement, leur dernier album Happy Soup, sorti en 2011, je crois. La chanson.
Récent.
Tout, oui, récent. Tout récent, tout récent, Claire. Et justement, c'est un choix aussi.
C'est ce que j'écoute en ce moment. On m'a fait découvrir cet album et je suis tombé, voilà, c'est fan de la production et voilà.
Un côté très nonchalant.
Voilà, très
très cool.
Voilà, son bien roots comme je les aime, voilà.
On disait que en antenne, on disait que nous disions.
Qu'est-ce qu'on en dit?
Nous disions, bah on parle plus hors antenne que ouais, qu'en
puis
antenne.
C'est fort, finalement. On parle fort.
Pardon. Que tu avais une curiosité aussi pour les choses qui n'étaient pas forcément dans tes goûts. On disait même bien avant l'émission que tu avais écouté le dernier Yannick Noah.
Voilà.
Donc, qui est ce soir à Laval, je crois.
Ce soir. Bon, bref. Non, en donc, tout cas, quelle curiosité quand même. Je dirais même quelle témérité.
Oui, et du coup, je préfère quand il joue au tennis.
Ouais. Tu prévois.
Ouais, forcément.
Bon,
donc on va là, pas dire voilà.
Non, ça, mais ça. Voilà, t'as la curiosité d'aller écouter des trucs.
Bah, ouais, après t'es... maintenant avec la nouvelle technologie, voilà, on peut aller. Voilà, moi j'écoute comme ça, on peut se faire une idée assez vite quand même sur certains trucs et en l'occurrence là, c'était assez rapide.
Mais en général, ouais, en général, voilà, c'est la curiosité qui t'a mis.
Ouais,
voilà,
ouais,
travailler dans la musique, c'est ça en fait, c'est d'être curieux aussi.
Je pense, ouais. Bon, après, par exemple, j'ai pas été écouté le dernier Mylène Farmer, par exemple.
Ah ouais, il est oui. Putain, il est
bien.
Il est bien.
Il est bon, hein.
Ouais. C'est vrai.
Non, ouais. Je sais rien.
Je vais y aller ce soir. Là.
C'est un match de tennis en 5-7.
Cette émission touche bientôt à sa fin. Petite question rituelle, les projets en cours, à venir. On a parlé de Jack and Lumber. C'est dans la boîte, c'est fini. C'est
on a juste commencé cette semaine.
Donc Jack and Lumber, qui est un duo lavallois.
Voilà.
Folk.
Ouais.
Chemise bûcheron.
Voilà. Inspiré Cocoon. Voilà, donc ils sont pas pressés forcément, donc je pense que ça sortira courant l'année prochaine.
C'est un 4 titres. Hein,
4 titres.
Sont ouais,
un EP 4,
ouais.
Voilà, pour l'instant.
Donc Jack et puis Florian qui arrivera aussi bientôt.
Voilà, Florian qui, je pense, lui, oui, ça sera pas avant septembre 2012, mais on prépare également le live là.
D'accord.
Mais j'ai un petit scoop, moi, par rapport à Florian. Je pense qu'il fera un petit tour en Mayenne.
Rico les bons tuyaux
au printemps.
Au printemps, donc.
Au printemps, ouais. Oui. Ouais. J'ai entendu parler de ça aussi.
Ouais, aussi ouais.
Dans une salle lavalloise bien connue.
Non, ouais, ouais, ça, ouais. Voilà. Ça,
on dira pas plus.
On dira pas plus.
Ça commence par un 6, ça finit par un 4.
Non, je ne sais pas. Non, non, pas forcément, non. Dans
d'accord.
Quelques lycées aussi, peut-être. Je ne sais pas.
D'accord, okay. D'accord. Non. Écoute, à suivre. Ouais. C'est la période des trois éléphants, il me semble.
Non, pas du tout.
Et y a aussi La Casa, je crois, qui
voilà,
reviendrait ouais. Peut-être dans ton studio, puisqu'ils avaient enregistré leur premier album chez toi.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà, pour l'instant, on travaille juste sur quelques titres. Voilà. Voilà, donc, eux ont écrit... ils ont écrit pour TFN un titre.
Oui.
Et puis, voilà, quoi. Donc, ils avaient des maquettes et... Donc on essaye de produire quoi, c'est voilà. Cool de se revoir.
C'est en cours et on attend ça avec impatience voilà. Du coup de pouvoir écouter ces nouveaux titres. J'espère ouais. Que ça sortira bientôt.
Ouais.
Je précise juste puisqu'on parlait de Jack and Lumber qui seront en concert aussi la semaine prochaine, vendredi 9 décembre à Changé. Ça c'est gratuit, vous êtes tous conviés, bienvenue avec Ball et ça sera dans le cadre d'un concert qui vient clôturer le tremplin des émergences puisque donc ces deux groupes Ball et Jack and Lumber étaient finalistes de ce tremplin suite aux résidences qui ont été organisées proposées aux finalistes. Il y a un concert voilà qui présentera ce travail.
Et pour en rajouter, tu parlais des émergences, le lendemain à Dan.
Un Daon
qui est tout près d'ici. En fait, il y a un concert de soutien justement pour le festival Les Bouts de Ficelle qui sont pris un petit peu d'orage sur la tête lors de la dernière édition. Donc, ils font un petit concert de soutien. On retrouvera le vainqueur des émergences, justement, Mad Lenoir, qui sera accompagné de Diri Road et de Santa Macaro Orchestra. C'est le samedi 10 décembre.
Voilà, c'était la page agenda. Donc,
voilà, j'espère que vous avez tous bien noté.
Vous avez votre week-end, vous savez ce que vous faites le week-end.
Il y a beaucoup de choses
hein,
ce soir, là, quand même. Le disque d'or, le calendrier de l'Avent, le Rhodes et les concerts. concert.
Donc on s'occupe bien de vous. Ouais. Et on conclut et on va conclure donc cette émission habituellement par un par une rubrique qui s'appelle La vieillerie à Jackie, qui est l'occasion de déterrer un vieux titre, un vieux disque, pas si vieux en l'occurrence aujourd'hui puisque c'est un album auquel tu participes pas. Je continue dans mon passé simple, bizarre. Qui est le premier album de Maël, L'extrême arrogance du poisson rouge. C'est ça, hein,
oui, titre, c'est voilà. Ça. Ouais, voilà.
Donc voilà, on va écouter ce titre-là pour conclure cette émission qui était sortie sur le premier album de Maël en 2002.
Ouais.
Une petite anecdote, quelque chose de spécifique à dire sur ce disque que toi, auquel tu as participé en tant que musicien. Hein.
Ouais, guitariste, oui. Anecdote... Bah, il y en a, mais là, je sais pas.
Je t'avais pas prévenu, excuse-moi. Ouais.
Non, c'était super, c'était peu, bien. Ouais. Non, c'est voilà, c'est un premier album qui sort sur une major, donc voilà, on découvre le monde, c'est le monde impitoyable des maisons de disques et. Donc c'est cool. Si une anecdote, la première fois qu'on était chez IMI, on a un peu dévalisé les les armoires de disques. On est revenu à peu près avec 30 disques chacun. C'est vrai, hein, c'est ils nous ont ouvert, ils ont été cool sur ce coup-là et nous on s'est pas privé quoi. Donc voilà, tous les je pense qu'on a à peu près tous les artistes de IMI en tout cas de cette époque.
Ok, super. Donc on va se quitter avec ce titre. Merci Romuald d'avoir répondu à notre invitation.
Ouais, merci
c'était
beaucoup.
Cool.
Ouais, c'était cool.
Merci. Un plaisir
merci.
Pour nous.
Merci pour ta playlist aussi, qui était super sympa.
Voilà. Merci à Vincent aussi, qui fut impérial.
Merci Vincent. Bravo, merci beaucoup.
D'habitude, derrière les manettes, à la technique. Et puis donc on se retrouve l'année prochaine maintenant, puisque la prochaine émission sera le 5 janvier. Donc voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et puis à l'année prochaine, donc.
Salut,
bonsoir.
J'écoute le vent se poser sur le sable. Le souffle de ton silence au milieu du visage. Je prends le temps de regarder tes larmes mouiller les éléphants à l'ombre des étoiles. Si on avait pris le temps de parler, peut-être que j'aurais voulu te sauver. T'avais accepté de t'excuser, je n'aurais pas osé t'abandonner. Seulement voilà, l'occasion était belle. Te vendre à des trafiquants criminels. Crois-moi, je n'entendais pas tes appels à l'aide. Attachée, t'as toujours été très belle. On avait pris le temps de parler. belle.